Restons courtois, Marc Hainaut.
Et de retour sur le plateau de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, diffusée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis avec Valentin Gore et Étienne Darjac. Nous étions avec Nicolas Boutin, avec qui nous avons fait un petit point sur les élections municipales. Vous nous avez posé plusieurs questions et plusieurs réactions, chers auditeurs. C'est peut-être le moment de vous les lire, de les lire ensemble en attendant que Jean-Michel Verne, notre confrère spécialiste du narcotrafic, nous rejoigne. Petit message d'un auditeur, petit témoignage à propos de Jack Lang. Il y a de cela une quarantaine d'années, Jack Lang était déjà archi connu sur Blois et ses environs comme étant quelqu'un qui ne payait jamais de facture d'aucune sorte. Simple témoignage vécu, nous dit un auditeur qui connaît bien la région. Ça confirme ce que vous nous disiez, Valentin.
Je crois que cet auditeur a raison, en fait, tout ça, et c'est un peu le drame de la France. Tout ça, ce sont des bruits qui couraient quand même depuis très longtemps.
Dans une très grande ville, on peut parfois passer entre les mailles du filet. Enfin, à Blois, si on paye pas, si on va dans les 3 ou 4 grands restaurants de Blois et qu'on ne paye pas, ça se sait très très vite dans une petite ville de province.
Un petit commentaire pour vous, Étienne Darjac, sur un auditeur qui réagit, une auditrice qui réagit à votre petite phrase comparant le charisme d'Olivier Faure à celui d'un écureuil. Et elle vous affirme que ceci est très offensant pour la population des écureuils.
C'est vrai. J'ajoute, j'ai quand même dit écureuil blessé.
C'est vrai. Alors un écureuil blessé, ça peut être féroce en plus. Hein. Honnêtement,
vous êtes un spécialiste.
Je suis un spécialiste. Voilà, un skirilo, je ne sais pas comment on appelle ça. Ensuite, quelqu'un qui vous conseille de déposer plainte pour votre téléphone volé, cher Étienne.
Oui, merci.
Il fallait en parler à Laurent Nunez.
C'est dommage. Je préférais qu'on détourne les dons.
Ça, vous auriez pu en parler à Laurent Nunez au Centre d'agriculture.
J'ai hésité.
C'est vrai, ça. un auditeur à propos de François Hollande, si François Hollande était un très habile politique, par contre, c'est un grand médiocre en tant qu'homme d'État pour conduire un pays correctement ou avec quelques visions. C'est vrai. C'est très vrai, on peut pas dire que le bilan de François Hollande était exceptionnel, mais pour tout vous dire, cher auditeur, au risque de vous choquer, après 10 ans d'Emmanuel Macron, écoutez François Hollande sur RTL il y a 3 jours, c'est-à-dire écouter un homme de gauche sympathique, avec de la bonne humeur et un langage un peu plus optimiste qui nous change un petit peu des sermons pontifiants, lénifiants et des crises de colère d'insoumis, c'est très honteux ce que je vais vous dire, mais ça m'a fait du bien.
Je crois que je remarque que vous êtes comme moi un bon catholique.
Ah, peut-être.
Et qu'on finit toujours par pardonner à nos pires ennemis. Donc François Hollande, maintenant, on serait vraiment ça de l'histoire ancienne.
Et c'est peut-être le défaut du journalisme politique, c'est qu'on s'attache beaucoup trop aux stratégies et aux coups peut-être qu'on a besoin de dézoomer un petit peu et de se rafraîchir un petit peu la mémoire sur le mandat de François Hollande. On va s'y pencher d'ailleurs, pas dans le prochain Valeurs Actuelles, mais dans celui d'après, vous aurez un très bon article bien étayé sur les plans de François Hollande. Pour revenir au pouvoir. Et je vois que Jean-Michel Verne est avec nous. Bonsoir Jean-Michel, comment allez-vous ?
Je vais très bien, bonsoir mes amis. Bon. Et je suis prêt à répondre à vos questions.
Parfait, bah écoutez, on en a beaucoup Jean-Michel, puisque nous étions pas mal en France sur la vie politique. Il faut dire que le Mexique connaît une situation beaucoup plus grave que celle de la France, puisque après la mort du chef de cartel, Jalisco, le chef de cartel s'appelait El Mencho, il a été tué par l'armée mexicaine ce dimanche 22 février, et bien le Mexique est semble-t-il à feu et à sang. Le cartel privé de son chef a lancé un petit peu partout dans le pays des actes de violence. On parle d'incendie, on parle d'assassinat. Avant de parler du fond de ce conflit, plus précisément, Jean-Michel Verne, on va faire un petit retour en arrière. Pardon, la question est très large, mais comment le Mexique en est arrivé là ?
Ah ben là, c'est très simple. Donc, le trafic de cocaïne a commencé à croître, je vais dire, à la fin des années 70, début 80, en Colombie, avec un monsieur qui s'appelle Pablo Escobar.
Bien sûr.
Et donc là, je dirais, voilà, la puissance du cartel de Medellín a pris en main tout le trafic de cocaïne vers les États-Unis. Ensuite, après la mort de Pablo Escobar en 1993, c'est le cartel de Cali, toujours en Colombie, qui a pris la suite. Cartel de Cali, qui en 96 et donc est l'objet de nombreuses opérations judiciaires, et qui disparaît lui aussi. Même si, bon, aujourd'hui, ça continue à fonctionner, ces cartels. Mais ce ne sont plus les cartels dominants, ce sont les cartels mexicains qui ont pris la suite. Et vous avez El Chapo et le cartel de Sinaloa avec Mayo, qui aujourd'hui sont incarcérés aux États-Unis. Le cartel de Sinaloa s'est coupé en deux et est apparu ce cartel de Jalisco avec à sa tête El Mencho, qui gère à peu près entre un tiers et deux tiers du trafic de cocaïne vers les États-Unis.
Ce qui est colossal.
Donc on est face à une organisation extrêmement puissante et on le voit, hein. On a des milliers d'hommes, des dizaines de milliers d'hommes. On voit des images avec des hommes armés,
des comme armées privées
avec
presque,
des casques qui mettent le feu partout. Donc c'est une vraie opposition à l'État. C'est quelque chose qui est extrêmement dangereux et extrêmement inquiétant, un phénomène très inquiétant et qui ne va pas se limiter au Mexique.
En tout cas, donc on reprécise hein, que El Mencho a été tué ce dimanche 22 février suite à une opération extrêmement minutée des forces spéciales mexicaines. L'homme de 59 ans a été tué au cours de l'opération. Ce qui est surprenant, c'est que la présidente actuelle du Mexique... idéologiquement plutôt proche de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas la France Insoumise avait salué l'élection de cette dernière, avait communiqué en rappelant qu'il ne fallait pas faire la guerre au cartel parce que la guerre, c'était pas une bonne façon de gérer les choses. J'ai presque envie de dire, est-ce qu'elle a changé d'avis ou est-ce qu'elle a été prise par la réalité en quelque sorte, Jean-Michel Verne?
C'est-à-dire que la présidente mexicaine est sous pression des États-Unis, c'est ouais. Trump qui décide. C'est Trump qui a décidé d'attaquer les bateaux qui partaient du Venezuela vers la Martinique. C'est Trump qui a décidé qu'il fallait arrêter El Mencho. L'arrestation s'est faite grâce aux renseignements américains, comme c'est la DEA qui a fait la peau à Escobar.
Ouais.
Il suffit de regarder la série Narco, qui certes est un peu romancée, mais s'appuie sur des faits réels. C'est très bien fait. Et si on veut comprendre comment fonctionnent les cartels, il faut regarder cette série, hein, c'est très intéressant. Et là, on continue, je dirais qu'on va voir peut-être dans Netflix, dans quelques mois ou quelques années, une nouvelle série. Il y a eu d'ailleurs Narco Mexico, mais là, on va peut-être encore en faire une par rapport à ce qui s'est passé là, avec la mort de El Mencho.
En tout cas, la décapitation du groupe narco Jalisco n'a évidemment pas fait cesser ses activités. Vous avez dit qu'il représentait un tiers, deux tiers du trafic de cocaïne au Mexique. Il est évidemment à craindre que le conflit entre le Mexique et ces cartels s'intensifient. Alors je sais que vous n'êtes pas spécialiste, vous n'êtes pas géopoliticien, bien sûr, Jean-Michel Verne, mais comme vous travaillez sur ces sujets-là, est-ce qu'on peut penser que l'armée américaine puisse intervenir directement au Mexique, comme ça s'est vu au Venezuela? Est-ce que ce serait un moyen de faire pression sur ces groupes narcos et les empêcher de nuire, tout simplement, au moins sur le territoire mexicain?
C'est évident aujourd'hui que ça soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, il y a des gens qui ont décidé que, on va dire, les règles qui régissent le droit international, aujourd'hui, n'ont plus aucune importance. Que ce soit Vladimir Poutine, que ce soit Donald Trump, voire Kim Jong-un, voilà, on est avec des gens qui sont sans limite. Donc, la Chine... lorgne sur Taïwan, donc elle peut faire une opération militaire. Pourquoi pas donc une opération militaire des États-Unis au Mexique,
Même avec le soutien, même avec l'accord du gouvernement mexicain d'ailleurs, hein, pas forcément contre... Mais ça paraît peu probable.
Oui. Quand même... Mais bon, en tout cas, le Mexique quand même cherche à conserver son identité.
Bien sûr.
Et donc, je ne pense pas qu'elle soit favorable à une intervention directe des Américains.
Non, mais
là, force est de constater qu'elle doit se poser des questions, parce que là, elle a été mise au défi, la présidente. Hein.
Bien sûr.
Là, vous avez des narcos qui prennent en main le territoire. Vous savez, le chiffre qui donne froid dans le dos, c'est quand même entre 2006 et 2023, 450 000 morts, dont 80% liés aux narcos.
Donc, au Mexique,
c'est énorme. Au Mexique, c'est énorme.
C'est des centaines de milliers de morts, pour le dire clairement,
Oui, bien sûr. Ben,
en 15 ans, quoi. Un peu plus
on
de
a
15
vu
ans.
des villages entiers balayés par les narcos. C'est extrêmement inquiétant. Et donc, je crois qu'il faut en tirer des réflexions.
Et si on prend l'aspect d'un point de vue plus franco-français, je rappelle d'ailleurs que vous êtes l'auteur de cette passionnante enquête Inside DZ Mafia au cœur du gang narco-mafieux, qui a été publiée ce 5 novembre 2025. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de l'éditeur pour que ce soit complet?
Arthaud, les éditions Arthaud.
Merci. On vous invite vraiment à le lire, chers auditeurs, parce que c'est vraiment une enquête passionnante. Est-ce que ces événements au Mexique, mais comme les événements au Venezuela, est-ce que ça a des conséquences sur le narcotrafic français ou européen, par exemple?
Alors, on note d'étranges correspondances, c'est-à-dire qu'on a plusieurs membres de la DZ Mafia qui se revendiquent d'une sorte de filiation par rapport aux narcotrafiquants mexicains. Je pense en particulier à l'un d'eux qui a comme surnom, il a plusieurs surnoms, mais il y en a un, c'est Nemesio. Nemesio, c'est le prénom de El Muncho. Et puis on a vu apparaître récemment une organisation dont j'ai parlé qui s'appelle la DZNG, en référence au cartel de Jalisco qui est Jalisco NG.
Ah oui.
Donc voilà, les correspondances sont là, ils sont fascinés. Et ils ont envie, manifestement, de reproduire le modèle sur le sol français.
Ce qui est extrêmement inquiétant quand on y pense, du coup.
Ouais, j'ai parlé avec un policier qui a travaillé pendant près de 30 ans sur ces questions, qui vient de quitter son poste. Et lui, il voit non seulement une correspondance, mais un danger immédiat.
D'autant qu'on a vu...
Il m'a parlé de danger à court terme ou moyen terme.
Ah oui, d'accord, donc ça va, d'accord. Parce que là, on a vu donc ces images à Lyon de règlements de comptes qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux par leurs jeunes auteurs, a priori, des devantures de maisons incendiées, des portes d'immeubles, des portes d'appartements incendiées, des tirs de fusils d'assaut à travers une porte d'entrée. D'ailleurs, sur le palier, on voit des vélos d'enfants, donc on peut supposer qu'il y a une famille à l'intérieur. Ce qui est assez fascinant, Jean-Michel Verne, c'est qu'à la fois, évidemment, il y a la nécessité de prouver sa force et de le faire connaître au monde entier via les réseaux sociaux, mais il y a presque une dimension d'influenceur, en réalité, là-dedans. C'est assez troublant de voir ce moment, finalement, où le narco-trafic rencontre le formidable outil de propagande et de diffusion sont les réseaux sociaux.
Regardez ce qui se passe au Mexique. Ils font ça pour que ça soit médiatisé, repris, et c'est la force médiatique de cette violence qui crée la puissance de ces organisations au-delà des morts ou du matériel qui est détruit. Bon, il y a eu quelques morts au Mexique, mais il n'y en a pas eu beaucoup par rapport à l'ampleur de ce qui s'est passé. Ils ont surtout visé des infrastructures, des magasins, des stations-service, des bus. Voilà, ils ont voulu médiatiquement marquer les esprits. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé depuis 2 ans avec la DZ Mafia, puisqu'ils ont médiatisé leurs actions.
Alors,
de façon à asseoir leur puissance.
Autant les assassinats d'hommes politiques au Mexique depuis 20 ans se comptent par dizaines, en lien avec cette guerre contre le narcotrafic. En France, pour l'instant, il est vrai, donc pour l'instant, ça se rapproche, j'ai envie de dire, puisqu'avec la mort du frère d'Amin Kessassi. On touche à une personnalité, le frère d'une personnalité politique dans l'absolu, parce que Kessassi a été candidat aux élections législatives à Marseille. Est-ce qu'il est à craindre? Vous parliez de votre source policière, vous parlez d'événements à court ou moyen terme. Est-ce qu'il est à craindre qu'après leurs concurrents, l'environnement de leurs concurrents, ils pourraient s'attaquer, à des cibles, qu'elles soient des magistrats, des hommes politiques, alors des policiers, c'est déjà le cas dans l'absolu. Est-ce qu'il est à craindre que justement on grimpe plusieurs rangs dans l'échelle du crime, quoi?
Écoutez, c'est pas à craindre, c'est écrit. Et si l'État ne réagit pas, malheureusement, on va vers ce genre de déconvenue. Et il est clair que c'est certain que d'autres personnalités peuvent être visées, politiques, des magistrats, journalistes. Il y a tout le panel est large.
Parce qu'on a vu Laurent Nunez après la mort de ce jeune homme, on a vu donc une espèce de bascule quand même un petit peu politique et de communication. Laurent Nunez, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, enfin toutes les personnalités politiques en lien avec l'émission régalienne ont eu des discours très offensifs sur. Déjà, ont reconnu l'existence, on va dire, de ce problème en France dans sa dimension assez complète, et surtout ont eu des mots extrêmement forts. Nous sommes une bascule, nous sommes en guerre, etc. Est-ce que ça a été suivi des faits? Qu'est-ce qu'on vous raconte sur place? Est-ce que les moyens ont été mis? Est-ce que les policiers en première ligne dans ce combat voient des changements dans la, peut-être même dans l'approche?
Alors, on a des changements qui sont en cours. La loi narcotrafic apporte de nouveaux outils. Mmh. On voit qu'on a mis en place de nouvelles juridictions aussi pour juger ces affaires. On va avoir à Aix-en-Provence, par exemple, des procès en assises, dont l'un particulièrement intéressant fin mars, qui met en scène plusieurs membres de la DZN Mafia. Donc, la justice fait son travail, cherche à faire son travail, la police aussi. Mais le problème, c'est que ces gens-là ont souvent un temps d'avance. Et que, en matière d'intimidation, ils ont compris le modèle, le paradigme. Regardez l'affaire des DPF. Cette action concertée contre plusieurs prisons via des réseaux sociaux.
Bien sûr.
Là aussi, c'est un défi qui est lancé. Là, la cible, c'était l'administration pénitentiaire, mais derrière, c'est l'État qui est visé. Donc là, ils n'ont pas encore attaqué directement l'État, mais c'est le défi est là. Hein, ils défient l'ordre public.
Ouais.
Défient les autorités, défient la police, ils défient la justice. Ils veulent affirmer leur puissance. Donc ouais, là, c'est un bras de fer, et le bras de fer, il faut le gagner, parce que sinon, on va avoir de très belles déconvenues. Ouais. On va se retrouver dans une situation ingérable.
En tout cas, ce n'est que le début. C'est ce que craignent certains experts un petit peu du sujet, c'est que si la lutte contre le narcotrafic est trop forte dans l'hémisphère américain, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'est que là, pour l'instant, on importe des marchandises, entre guillemets, je veux dire, a priori, on ne produit pas vraiment de cocaïne en France. Est-ce qu'il est à craindre qu'on assiste à la multiplication d'installations de labos clandestins, où j'ai envie de dire les matières premières seraient pas forcément produites, mais en tout cas, toute la transformation et toute la construction de ces substances soit finalement produite face du Made in France, quoi.
Mais on l'a déjà vu en matière. On a un laboratoire de drogue de synthèse qui a été démantelé, dans le Var récemment. Et cette drogue était destinée notamment à l'Australie. Et donc, on peut avoir chez nous aussi ce type de labo, pourquoi pas. Enfin, pour l'instant, je veux dire, la Colombie continue de produire, parce que la drogue, elle n'est pas produite au Mexique, hein, principalement, elle est produite en Colombie ou au Pérou. Les quantités sont toujours de chaque année de plus en plus importantes. De mémoire, je crois que la Colombie produit 2400 tonnes par an, quoi, de cocaïne. C'est énorme.
Colossal.
Et donc, c'est des chiffres, voilà. Et donc, cette drogue, elle va continuer à s'écouler. Jusqu'où sont prêts à aller les Américains? C'est la question. Parce qu'eux, quand ils mettent les moyens, ils mettent les moyens. Hein.
Et que quand Donald Trump dit quelque chose, surtout sur ce point de vue-là, généralement, il a tendance à le faire, quoi. C'est un peu le...
C'est un peu le sujet. Alors c'est compliqué, hein, parce que les États-Unis, ils ont ce problème de la cocaïne, ils ont le problème du fentanyl, une nouvelle drogue de synthèse qui est une horreur. Hein. Et donc ça, c'est produit.
Qui envoie des hordes de zombies.
Qui sont derrière, hein, les triades. Donc les matières premières partent de Chine, les labos sont installés aux États-Unis.
Très organisé, oui.
La guerre contre la drogue aux États-Unis, c'est quelque chose de sérieux. Et aujourd'hui, c'est la même chose en Europe.
Ouais.
On se pose des questions, parce que quand le fentanyl va débarquer en France, je ne sais pas trop comment ça va tourner.
Et qu'on aura des légions de zombies dans nos rues, quoi. Parce qu'en fait, ça transforme les gens en zombies, cette drogue. Elle est absolument abominable. C'est pire que l'héroïne, qui était déjà un fléau il y a 30 ans. Enfin, c'est colossal.
Ouais. Ouais, bien sûr.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Jean-Michel Verne d'avoir été avec nous. On vous libère parce qu'on sait que vous avez d'autres obligations après. Merci à vous d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur ce sujet. Restez avec nous, chers auditeurs. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault, je suis en compagnie d'Étienne Darjac et de Valentin Gore. Vous venez d'écouter Jean-Michel Verne, journaliste qui collabore à Valeurs Actuelles, grand reporter et auteur surtout de cette enquête Inside des Zen Mafia, un livre enquête absolument fascinant sur la création et l'organisation de cette mafia qui s'est imposée comme à la tête un petit peu des trafiquants de drogue de ce pays, pour notre plus grand bonheur à tous, bien évidemment. On va recevoir, restez avec nous, puisque à 19h nous recevrons le sénateur Étienne Blanc, seul élu de la République à avoir participé à la marche hommage au jeune Quentin Deranque, ce militant catholique et nationaliste assassiné à Lyon par des militants de la Jeune Garde. On va juste revenir un petit peu en politique, parce qu'il y avait quand même pas mal de villes qu'on voulait voir avec Nicolas Boutin et qu'on n'a pas eu le temps de faire jusqu'au bout. Marseille. Paradoxalement, il y avait deux villes que je voulais faire avec vous, parce qu'il y a Marseille et Nice qui sont peut-être les deux grandes villes à enjeu pour la droite. Je vous propose de commencer à aller par le plus facile, par Nice, puisque la gauche n'est pas spécialement présente. On s'oriente vers un duel historique, fratricide, absolument violent entre Christian Estrosi, l'actuel maire de Nice, ex-LR passé chez Horizon, et Éric Ciotti, ex-LR ayant quitté les Républicains pour créer l'UDR et qui est aujourd'hui allié du Rassemblement National. Les deux personnalités sont censées débattre ensemble d'ailleurs demain, je crois. Demain à Nice, je crois sur BFM Côte d'Azur, il me semble.
Alors moi, il me semblait que c'était en début de semaine prochaine.
Je crois que c'est lundi.
Pardon.
Mais
okay.
Bon. Voilà,
information à l'heure actuelle.
Mauvaise information. Pas info VA celle-là. J'engueulerai ma source. Non. En tout cas, les deux ont bien prévu de débattre et ça va être effectivement assez sanglant puisque les derniers sondages sont assez spectaculaires. Là où Christian Estrosi n'a jamais souffert de la moindre contestation sérieuse à Nice, se voit aujourd'hui en ballotage extrêmement défavorable. En effet, Éric Ciotti lui mettrait une quinzaine de points dans la figure. Je vais retrouver le sondage exact pour vous le donner précisément. Mais en tout cas, Éric Ciotti largement devant au premier tour. Ça panique chez Estrosi. J'ai envie de dire, on a presque l'impression que tout ce qu'a fait Éric Ciotti depuis 2 ans, finalement, trouve un petit peu sa raison dans ce sondage et dans... si ce sondage, évidemment, ne se trompe pas sur le score du premier tour, Valentin Gore.
Oui, absolument. Je crois que c'est vraiment la grande ambition d'Éric Ciotti, hein, plus que d'être même ministre de l'Intérieur, quel poste auquel on lui a souvent attribué l'envie de l'obtenir. J'y arrive. Oui, évidemment, Éric Ciotti parvient à dominer Christian Estrosi. Il a reçu une forme de soutien implicite aussi de François Fillon, avec lequel Éric Ciotti a dîné avant-hier dans un très beau restaurant à Nice. Donc c'est aussi l'image ayant été partagée, c'est une façon de montrer sans doute pour François Fillon une
petit
forme
clin d'œil
de soutien.
Légitimiste.
Voilà, au légitimiste. Christian Estrosi, vous l'avez dit, alors tout ça remonte, puisque évidemment Éric Ciotti a été collaborateur important, et même le premier d'entre eux de Christian Estrosi lorsque ce dernier est devenu maire de Nice.
Absolument.
Après la fuite quand même pour le moins rocambolesque de l'ancien maire encore avant, qui était Jacques Médecin. Il y avait eu Jacques Perra entre les deux, hein, qui était non pas au Front National, mais lié au Front National. Mmh. Donc Nice, c'est toujours une histoire politique très, très complexe et aussi très, très, assez violente. Hein. Et c'est vrai que c'est une campagne violente dans les mots. On sent des deux côtés une haine. Les deux se chipent, entre guillemets, des élus. Il y a une espèce
de
marché.
Avec la volonté de se faire mal un petit peu.
Voilà, avec la volonté de se faire mal. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment les frères ennemis... Et ça va très loin jusqu'au débauchage récemment par Éric Ciotti du défenseur des animaux Henri-Jean Servat, bien connu de certains de nos auditeurs, ami de Brigitte Bardot aussi, qui était sur la liste Estrosi en 2020 et qui sera sur celle d'Éric Ciotti cette année.
Absolument. Avant de vous donner la parole, Étienne Darjac, je tiens simplement à vous rappeler les chiffres du sondage. C'était un sondage cluster 17 qui plaçait Éric Ciotti en tête avec 41% devant le maire Horizon. Christian Estrosi qui récoltait quant à lui 31%. Je précise simplement pour compléter l'information que les équipes autour de Christian Estrosi dénoncent ce sondage qui serait selon eux une manipulation. Je vous laisse juger, j'ai envie de dire, le soir du premier tour vous donnerez la réponse sur qui s'est trompé ou non, Étienne Darjac, sur ce duel fratricide dans une des plus jolies villes du sud de la France, il faut le dire.
Il faut dire que... pour qui est un peu passionné de basse politique politicienne, c'est de très très loin l'élection la plus intéressante et la plus excitante de ces municipales.
Alors, on fait beaucoup de politique, chers auditeurs. Si vraiment le sujet ne vous intéresse pas, n'hésitez surtout pas à nous faire savoir. On comprendra, on changera de sujet. Mais là, je sens qu'on touche un peu tout ça, nos péchés mignons. Vous pouvez d'ailleurs évidemment réagir à cette émission à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85.
Je note par ailleurs que c'est la deuxième fois que Marc m'interrompt en début de phrase pour faire des messages de rappel.
Je commence à faire beaucoup.
Je commence. Ouais. J'ai déjà passé une très mauvaise journée, Marc. Je vous remercierai de ménager un peu.
Vous avez qu'à m'appeler. Ah bah non. Allez-y Étienne, pour me faire pardonner, je ne vous interromps plus jusqu'à la fin de votre propos.
Je note par ailleurs que la région PACA nous a habitués à ce genre de duel fratricide, puisque si vous vous rappelez, pendant les dernières régionales, il y avait eu aussi un duel entre deux anciens meilleurs amis qui étaient Renaud Muselier d'un côté et Thierry Mariani de l'autre. Ça
Absolument.
Avait été un duel passionnant. On se souvient, d'un débat télévisé pendant lequel Renaud Muselier avait refusé de serrer la main de Thierry Mariani, alors que les deux avaient été complices pendant, je crois, au moins une vingtaine d'années. Donc c'est vraiment, je le redis, de la basse politique politicienne, mais il est évident que ce duel est passionnant à suivre. Mmh. Je me demande d'ailleurs, vous avez dit et avec raison que sans doute que le ralliement d'Éric Ciotti au Rassemblement National via la création de l'UDR était, on l'a beaucoup dit, intégralement justifié par cette candidature à Nice. Je me demande à quel point, en fait, Éric Ciotti est vraiment intéressé par la mairie de Nice et par la vie à Nice, ou si c'est vraiment juste par pure haine et détestation de Christian Estrosi qu'il a l'intention de lui ravir la ville.
Très honnêtement.
C'est un peu ironique ce que je dis.
Oui, c'est un peu ironique parce que le VEDA, pour le coup, il y a quelque chose qui n'est pas fin chez Éric Ciotti, c'est vraiment son amour pour Nice et les Niçois. En tout cas, vous avez raison, c'est que c'est pour ces deux personnalités, enfin, la vie politique est ainsi faite que la haine en politique est un véritable moteur, et que je pense qu'effectivement, pour ces deux personnalités qui se haïssent, évidemment, cette haine joue aussi comme moteur politique.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on n'imaginait pas du tout Estrosi être autant inquiété. Il était quand même donné, alors, pas de façon très large, mais il était quand même donné gagnant en tous les coups. Il faut dire que il n'y a pas de territoire plus maîtrisé par un élu que Nice par Christian Estrosi, qui est là depuis très longtemps, on sait. Mais voilà, il y a une nouvelle donne qui s'installe. Il y a cette union des droites qui se fait contre lui, qui semble être en mesure pour la première fois de le bousculer. On sent que de son côté, des côtés de ses équipes de campagne, il y a un vent de panique un peu qui se lève quand même.
Une fébrilité.
Enfin, il y a quelque chose qui bouge et c'est sans doute annonciateur plus que d'une logique générale pour les municipales. C'est peut-être annonciateur de ce qui se passera en 2027, puisqu'il faut pas oublier qu'Estrosi est un rallye au macronisme. Je crois qu'il est même vice-président d'Horizon, si je dis pas de bêtises.
Oui,
voilà.
Mais...
c'est un des premiers LR et un des plus importants LR, en tout cas parmi les barons locaux.
Me permets de vous interrompre, Étienne, une seule seconde.
Encore.
C'est que, imaginez, au soir des municipales, le président d'Horizon perd Le Havre et le vice-président d'Horizon perd Nice.
Image délicieuse.
Voilà.
Pour un parti d'élus locaux, c'est dommage.
C'est dommage. Pas mal. Vous pouvez continuer, Étienne Darjac. Et vous avez oublié ce que vous vouliez dire.
Oui, complètement. Voilà. Je vais laisser Valentin qui vient de nous faire une très belle touche d'esprit.
Je viens de vous saper les gens. C'était juste pour refiler la parole à Valentin. Allez-y, ouais, Valentin.
De toute façon,
Il y a peut-être une toute petite chose qu'on peut dire aussi, c'est qu'Estrosi, vous avez raison, moi aussi je pensais qu'il était quand même en bien meilleure position dans sa ville, parce que des échos que j'ai, moi je vais parfois à Nice et je connais pas mal de gens là-bas, il est plutôt vu pas forcément comme un mauvais maire, personne ne dit qu'il a été catastrophique ces 6 dernières années, mais malgré tout il faut quand même noter que cet homme qui était plutôt il y a 10 ans à la droite de l'UMP, qui était sur la ligne Ciotti, en fait, hein, ils avaient plutôt la même ligne, c'est quand même beaucoup recentré pour tenir compte, notamment, c'était sa stratégie du rajeunissement de sa ville, qui a beaucoup changé de sociologie, qui est devenue une ville universitaire, qui était une ville moins à droite qu'elle ne l'était, pour coller aussi, par exemple, à l'écologie, il a en partie piétonisé la promenade des Anglais. Donc peut-être qu'il paye aussi une forme, les partisans d'Éric Ciotti diraient presque une forme de boboïsation en partie de la politique estrosiste à Nice.
En tout cas, cas, ce qui est très amusant, c'est qu'Éric Ciotti a aussi accueilli le ralliement de Jean-Marc Governatori, le patron de Écologie au Centre, qui
a fait tous les partis possibles, à mon
avis.
Qui
a fait tous les partis possibles et imaginables, absolument. Mais,
alors, qui a fait tous les partis possibles, mais qui a toujours la même chemise verte
fluorescente. C'est une petite concurrence à Marine Tondelier.
Qui me dérange énormément. Je voudrais qu'il arrête.
Arrêtez, monsieur.
Laissez-nous tranquille.
Maintenant qu'il a rallié Éric Ciotti, il va peut-être passer au bleu.
Au bleu marine.
Au bleu marine, en rapport à la couleur de la Méditerranée, bien évidemment.
Bien évidemment.
Très bien, on va finir le tour. On va finir Marseille. Vous avez parfaitement raison. Alors, Marseille.
Heureusement, quelqu'un anime cette émission.
Bravo. Pour mettre du rythme, parce que sinon, oh là là, on s'endort, je suis sûr que les auditeurs, ils en peuvent plus. Très bien, on va parler de Marseille, on va se réchauffer. Vous en faites des caisses comme la sardine du port de Marseille, en fait, Étienne, vous êtes un méridional. On transitionne comme on peut. Les sondages sont effectivement extrêmement serrés. Bon, déjà, on va parler de ce débat absolument incroyable.
Martine Vassal, s'il vous plaît.
Martine Vassal en grande forme qui nous sort que ses valeurs sont le travail, la famille, la patrie, dans cet ordre, vraiment dans cet ordre. Et on dit à Benoît Payan qui lui faisait la remarque de la filiation finalement de ses valeurs au maréchal Pétain et à Vichy, elle répond mais ce sont mes valeurs. Voilà, donc déjà là-dessus, deux théories, soit elle s'est radicalisée à droite à une vitesse, une rapidité absolument incroyable, soit en fait elle n'a pas pris la mesure de ce qu'elle disait, pour rester courtois, Valentin Gore.
Je pencherais plutôt pour la deuxième hypothèse. Je doute que ça soit une stratégie établie. J'ai vu sur les réseaux sociaux d'aucuns dire ah oui, c'est un coup de billard à trois bandes. En fait, elle saborde sa propre campagne parce qu'elle est alliée à Payan qui va lui promettre en échange la présidence de la métropole. Non, je crois pas du tout. Je crois que.
Alors, persuader que les électeurs du Front sont du Rassemblement national sont des énormes vichistes.
Oui, et que tout d'un coup, il y a 40% de pétainistes qui vont sortir du sol à Marseille et voter pour un seul homme pour elle. Non, pas du tout. Je pense que c'est un peu un inconscient, comme dirait Papa Freud, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets d'ailleurs. Mais comment dire ? Oui, Martine Vassal, elle est parue complètement, un peu comme Jean-Michel Aulas. Elle est passée tout à fait à côté de ce débat. Elle avait l'air de planer un peu au-dessus, dans on ne sait quelle hauteur. Elle a d'ailleurs été ses attaques contre le maire sortant, Benoît Payan, qui a pourtant un bilan exécrable, n'ont pas du tout fait mouche. Le candidat du Rassemblement National, Franck Alizio, qui est tout à fait en tête des sondages et qui a même une chance.
Alors, qui est juste derrière Benoît Payan.
Alors oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, parce que il a une chance.
En tout cas, il est le premier
limité,
à droite.
Voilà, c'est ça. Gagner la ville, limité, mais tout de même. C'est vrai que ce débat, il n'est pas non plus apparu comme vraiment en pointe. Donc c'est vrai que ces débats au municipal, finalement, là, on a vu aussi bien à Lyon qu'à Marseille aussi une baisse de niveau assez impressionnante de la classe politique, qui est assez affligeante.
Étienne Darjac.
Écoutez, oui, j'avoue que j'ai trouvé la séquence de Martine Vassal très amusante. Je crois que ce qui est encore plus amusant, c'est l'absence totale de réaction de Sébastien Delogu, qui n'a clairement pas eu la ref. Le dire.
Non. Mais il avait pourtant parlé de Pétain et
oui, c'était probablement des fiches faites par.
Non, il avait dit, on lui avait demandé ce que vous connaissez, je crois que c'est Monsieur Bourdin, il lui a dit vous connaissez Pétain, il avait répondu c'est un raciste.
Ce qui est assez vague comme définition.
On parlait de baisse de niveau, Sébastien Delogu en incarne sans doute parfaitement la tendance. Non, je trouve, en tout cas, pour essayer de mettre un peu de sérieux dans cette discussion, dans cette anecdote. Je crois que finalement, ça ne fait pas tellement les affaires de Franck Alizio, parce que la question qui se pose dans ces municipales à Marseille, c'est que va faire Martine Vassal. Ça sera un peu la décideuse, le mot n'est pas très joli, pardon, mais qui déterminera
la
faiseuse de roi, tout à fait, entre Benoît Payan et Franck Alizio, qui sont effectivement plus ou moins coude à coude. Je doute que Martine Vassal, qui jusqu'à présent n'a pas spécialement donné beaucoup de signes de son courage, ose rallier la liste de Franck Alizio ou même adopter une position gentiment neutre, légèrement droitière, alors qu'elle est depuis quelques jours marquée du sceau de l'infamie, qu'elle est officiellement pétainiste, qu'elle est officiellement fasciste. Je pense que, et c'est assez triste à dire, hein, mais j'en suis convaincu, que ce simple accident de parcours, parce que c'est un accident de parcours, elle a pas réfléchi à ce qu'elle disait.
Oui, ça, très certainement.
C'est un lapsus, en fait. Je pense que ce simple accident de parcours et la pression grotesque mise par la gauche à ce sujet suffira à la décourager d'entacher encore un peu plus son image, de prolonger ce dérapage ignoble, il faut le dire, contre les valeurs de la République.
Que nous condamnons.
Et que nous condamnons avec la plus grande fermeté. D'ailleurs, je me rendrai sur place. donc, je pense qu'en fin de compte, ça ne fera pas les affaires de Franck Alézieux et que ça poussera plutôt Martine Vassal, soit directement dans les bras de Benoît Payan, ce qui serait quand même un attelage assez audacieux, soit en tout cas à une position neutre qui en fin de compte, ne permettra pas la victoire de la liste d'Union des droites. D'ailleurs, c'est une liste d'Union des droites, il faut
alors,
le dire.
Plusieurs choses. Déjà, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit.
Merci, Marc.
Toutefois, Franck Alizio se dit prêt à faire alliance avec Martine Vassal à condition, cite, qu'elle se désolidarise de la Macronie et du maréchal Pétain.
Non. C'est comme... Il a vraiment dit ça?
Il a confié ça à Valeurs Actuelles, en tout cas. Ce sont dans les coulisses politiques du numéro cette semaine.
Quel sketch.
je rejoins un peu ce qui a été dit sur le niveau de la classe politique actuelle sur bien des choses. Alors, non, mais autant ce petit mot d'esprit de Franck Alizio était assez amusant, mais c'est vrai que il y a deux choses, je pense. En fait, moi, il y a deux choses qui me surprennent chez Martine Vassal, très objectivement. C'est que sa première interview, c'était chez Sud Radio, chez l'excellent Jean-François Attili, ou qui lui pose la question: est-ce que vous seriez prête éventuellement à envisager une alliance avec Franck Alizio?
Non, elle était pas fermée du tout.
Elle n'a pas fermé la porte. Alors, elle a brillé, c'était quand même plutôt non, quoi, mais elle aurait pu évacuer le truc en disant non, jamais. Et ça s'arrêtait là. Et le fait d'avoir laissé une demi-porte ouverte, alors le lendemain, il y a toutes ces équipes et ces porte-paroles qui se sont acharnés à tirer la poignée pour essayer de refermer la porte au plus vite, mais j'ai envie de dire, le mal était fait. Et Martine Vassal, c'est vrai que ce qu'elle vise personnellement, c'est déjà la métropole, tout simplement. Et moi, je pense qu'il peut y avoir effectivement un univers, et c'est là où, pour moi, le camp Vassal est en danger, c'est que le cliquet vote utile, qui est quand même extrêmement important dans ces campagnes-là, et eh bien en fait, aujourd'hui, il est complètement à l'avantage de Franck Alizio. Et moi, je pense que Martine Vassal, qu'elle fasse ou non des consignes de vote, qu'elle arrive au second tour, c'est un fait. Je pense que ça paraît difficile d'arriver sous les 10% la concernant, mais il y a peut-être aussi un monde où ses électeurs auront finalement le choix entre soit réélire Benoît Payan en votant Martine Vassal au second tour, soit vouloir tourner la page Payan et dans ce cas-là déporter leur vote sur Franck Alizio. Finalement, j'ai envie de dire, là où vous avez raison, c'est pas tant Martine Vassal qui va être la faiseur de roi, par contre ce sont ses électeurs au second tour qu'ils seront, quelle que soit l'annonce et la demande qu'elle exprimera au sort du premier tour. Après, comme évidemment les élections sont jamais faites d'avance, elle pourrait aussi arriver pourquoi pas en tête au premier tour. Enfin, après tout, on ne sait pas. Je précise simplement qu'évidemment, ce ne sont que des sondages réalité est toujours un petit peu plus complexe. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Valentin Gore, journaliste chez Valeurs Actuelles, et Étienne Darjac, éditorialiste bien connu de nos auditeurs. Dans quelques minutes, nous accueillerons le sénateur LR Étienne Blanc. Avec lui, nous reviendrons sur la marche en hommage au jeune Quentin de Ranque, marche à laquelle il s'est rendu en tant que sénateur, en tant qu'élu de la République. Mais tout de suite, chers auditeurs, un petit message de votre radio.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et bonsoir à nouveau chers auditeurs, vous êtes bien dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles et Étienne Darjac, éditorialiste. Dans quelques instants, nous accueillerons le sénateur LR Étienne Blanc, avec qui nous reviendrons sur notamment sur la mort du jeune Quentin Derenck, puisque Étienne Blanc était le seul élu de la République à avoir assisté à cette marche de soutien à Lyon. En attendant l'arrivée du sénateur, il y a évidemment un autre sujet du côté du Parlement, c'est le vote en deuxième lecture par l'Assemblée nationale de la loi légalisant le suicide assisté et l'euthanasie par 299 voix pour et 226 voix contre. L'aide à mourir a été votée par les députés. J'ai presque envie de dire l'écart se resserre, même si cela paraît assez large, Valentin Gore.
Oui, l'écart se resserre. En tout cas, à chaque vote, il est un peu plus serré que ce que les observateurs prédisaient. En tout cas, là aussi, je rejoins ce qu'on disait juste avant, le niveau des hommes et des femmes politiques. On a vu quand même que les débats étaient pour le moins peu suivis par les députés. Il y avait très peu de monde en séance. Hormis des gens vraiment engagés des deux côtés, la majorité des députés est venue voter seulement à la fin. On peut le regretter parce que là on est quand même sur une question pour le moins majeure en matière. Enfin là il s'agit tout de même d'écrire l'histoire de France et dans un sens, oui c'est une bascule civilisationnelle vertigineuse des deux côtés, qu'on soit pour ou contre. Voilà, évidemment je pense qu'ici nous sommes trois à y être fermement opposés.
Absolument.
Mais oui, moi je suis quand même très mal à l'aise. On a vu aussi des débats qui franchement n'étaient pas toujours d'un niveau formidable. Et peut-être une absence de questionnement philosophique chez beaucoup de députés, à défaut d'un questionnement religieux, ça c'est propre à chacun. Mais on n'a pas le sentiment que beaucoup des députés qui ont voté pour les faits pour des raisons vraiment profondes et qu'on peut imaginer. On a le sentiment que c'est une espèce de vogue et que allons-y,
un sens de l'histoire,
pourquoi ne pas le faire, c'est une liberté, alors allons-y.
Bon, c'est un droit qui n'enlève rien de plus à personne, mais qui ouvre des nouveaux droits à d'autres, en fait. Étienne Darjac, c'est peut-être ça la difficulté dans ce débat. C'est vrai, déjà, intéresser déjà les députés et puis même l'opinion, puisque c'est très difficile d'intéresser les gens
à ce
sujet, alors même que vous l'avez rappelé, Valentin, il est fondamental. C'est quoi, c'est le sens de l'histoire, la légalisation de l'euthanasie en France?
Si c'est le sens de l'histoire, j'ai très envie de partir de l'autre côté. Ce qui est certain, c'est que il y a, effectivement, vous l'avez dit, Valentin, une minorité de gens qui savent de quoi ils parlent. D'un côté comme de l'autre, il y a des gens favorables à l'euthanasie qui savent très bien ce qu'ils font. Et il faut insister là-dessus. Il y a eu effectivement quelques personnalités opposées qui se sont distinguées, plutôt joliment, je trouve. Mais dans l'ensemble, et c'est valable autant pour le personnel politique que pour les Français, personne ne comprend vraiment de quoi il s'agit. C'est un sujet qui est très mal compris, qui n'est pas maîtrisé, sur lequel, je pense, on entretient volontairement le flou, qui sans doute est adopté par la majorité des députés parce que ça leur donne un vernis progressiste de plus. Ils font pas tellement la différence entre ça, la PMA, la GPA, la constitution de l'avortement, tout ce que vous voulez. Si c'est ça dont vous voulez parler en parlant de sens de l'histoire, oui, peut-être. Je crois profondément qu'on vient de sauter dans le vide. Alors on était déjà pas, il y avait pas déjà de quoi être fier de la situation sociétale, on va dire. Alors c'est, le mot est un
le
peu galvaudé,
mais on a compris,
mais voilà,
de quoi
on
faisait allusion.
Il y avait pas déjà de quoi être fier. Merci. là c'est un très grand pas qu'on vient de faire dans le vide. On change de degré, hein, peut-être pas de nature, mais de degré très nettement. Je pour être honnête avec vous, je suis assez désarmé à ce sujet-là. Je ne vois pas de retour en arrière possible quand je regarde dans les autres pays qui ont adopté l'euthanasie. Il y a eu toutes les dérives possibles, imaginables, toutes les histoires les plus sordides possibles. Mais j'insiste sur le mot sordide. Hein,
on parle de patients étouffés par leur oreiller lorsque le produit n'a pas fonctionné.
Exactement,
ça s'est passé en Belgique.
On parle de gens euthanasiés contre leur gré, par des familles ou des proches intéressés. On parle d'adolescents de 20 ans qui traversaient des phases de dépression, qui ont été euthanasiés. Enfin, c'est
des adultes.
Enfin, il y a des choses, mais qui vous glacent le sang. Et qui, pourtant, dans les pays concernés, en l'occurrence, je pensais notamment au Canada et à la Belgique, n'ont absolument pas suscité de retour en arrière, de remise en question. Bon, c'est en fait le cas de toutes ces lois sociétales. Hein, ça a été c'est le cas de la PMA, ça a été le cas du mariage pour tous, de l'avortement. Chacune de ces lois a profondément dérapé, dérivé, si on peut dire. C'est particulièrement emblématique avec l'avortement, hein, dont on sait que entre le texte
qui était une loi d'exception,
qui était conçu par Simone Veil, ça n'excuse en rien, je précise, hein, mais qui était conçu par Simone Veil comme effectivement quelque chose de particulièrement exceptionnel, à être très lourdement encadré, qui se retrouve aujourd'hui dans la Constitution.
Oui, ce qui est fou,
il en va de même pour le mariage pour tous, dont les opposants avaient dit et annoncé qu'il entraînerait nécessairement, la PMA et la GPA. On y est pour la PMA, on y sera pour la GPA. Si un candidat progressiste gagne en 2027, ça sera pour ce mandat-là, sinon ça sera pour le suivant. Il y a une glissade, et j'ai l'impression qu'on ne sait pas s'arrêter.
Ouais.
Et quand je vois la radicalité du texte qui a été voté hier soir, quand je vois la radicalité plus profonde encore de certains amendements, tous n'ont pas été retenus, Dieu merci, mais il faut voir ce qui a été proposé. Il y a des choses qui défient l'entendement, donc voilà, je vous confie mon désarroi.
Un long désarroi que vous nous avez exprimé, Étienne Darjac, mais totalement compréhensif. C'est vrai, Valentin Gore, quand on suit un petit peu les débats, on entend les arguments. Alors, il y a ceux, évidemment, qui sont pour de manière très libérale, libertaire et de manière totalement assumée, qui plaident justement pour qu'il y ait le moins de garde-fous possible et que ce soit une loi de liberté absolue, même si on y reviendra, ce sera de toute façon pas le cas. Et il y a ceux aussi qui se cachent derrière, justement, le côté, mais rassurez-vous, ce sera bien encadré. Il y aura des lignes rouges. Il faut justement que le législateur s'en empare pour éviter les dérives. Je pense notamment à l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudeau, qui est députée Horizon de Seine-Maritime et qui défend ce projet de loi en mettant en avant des réserves. Oui. Mais au fond, on sait, vous avez fait le parallèle avec la loi Veil, Étienne Darjac, qui est assez pertinent dans le sens où on est passé d'une loi d'exception où l'avortement devra toujours être considéré comme un drame, et je reprends les termes de Simone Veil, à un délit d'entrave.
C'est-à-dire à la Constitution même.
Exactement. Donc on est passé d'un drame à éviter absolument et une loi d'exception à quelque chose auquel on ne peut s'opposer, voire même on ne peut opposer la moindre critique. Enfin, et on suppose que la solidité des garde-fous étant ce qu'ils ont été pendant tous les débats en première lecture, c'est-à-dire qu'ils ont tous sauté après les autres, on peut légitimement douter de la solidité de ces garde-fous.
Ah ben on peut tout à fait en douter. Vous avez raison de dire qu'il y a cette tentative à tout à fait à l'origine qui peut être parfois louable ou du moins entendable. Vous l'avez rappelé pour les précédentes révolutions, parce que ce sont vraiment des révolutions au sens le plus grave de ce terme. Et Dieu sait qu'en France, il en a un tout à fait grave. Et là, nous sommes dans une forme de transhumanisme aussi, hein, à terme, hein, puisqu'on voit bien qu'on passe, j'allais dire, depuis 50 ans, certaines bornes morales de l'humanité qui jusqu'ici étaient tout de même très sévèrement encadrées et même punies, vous avez raison de le dire. Et cette loi d'euthanasie, on est vraiment... moi, je suis tout à fait choqué, comme vous l'avez dit, Étienne, de l'espèce de climat, tout à fait, on a l'impression qu'il... Je suis sûr que 90% des Français ne savent pas qu'en ce moment, à l'Assemblée nationale, on parle de l'euthanasie. C'est quelque chose de très lointain dans le débat public en ce moment. Il y a par exemple, je crois pas, j'en suis même sûr, qu'il y ait eu une grande soirée sur le service public où on s'est dit, tiens, il se passe quand même quelque chose de très important à l'Assemblée nationale, on va organiser, puisqu'on nous parle sans cesse du service public et de ses valeurs, pourquoi pas organiser un grand débat pour simplement qu'on puisse en parler.
Oui, vous avez raison,
il n'y a eu absolument aucun débat médiatique.
Il y en a eu un petit peu sur France Info, il y en a eu.
Oui, bien sûr.
Même CNews n'en parle pas, BFM n'en parle pas, les talks, les émissions style Les Grandes Gueules, Estelle Midi n'en parle pas non plus. C'est vrai que personne
n'a raison. Mais quand on voit le ramdam qu'on fait quand il s'agit de déplacer l'âge de la retraite de 3 mois ou de 6 mois, ou alors là, c'est la crise, tout le monde se met à hurler en France, c'est absolument insupportable. Et alors là, évidemment, le problème, c'est que c'est exactement comme pour l'avortement. Le problème, c'est que les gens qui sont aujourd'hui malades, ils n'ont pas de syndicat pour les défendre. Il n'y a pas de manifestation dans les rues pour les défendre. Ils ne représentent pas un capital politique suffisant pour intéresser au sens large les partis politiques en dehors de personnalités qui sont tout à fait engagées dans ce débat et qu'il faut saluer, notamment au Sénat. On en a eu beaucoup d'exemples à l'Assemblée aussi. Je pense à Philippe Juvin en particulier. Mais on a le sentiment, en effet, et là, on arrive aux limites de la société civile. On en parlait sur un tout autre sujet avec Jean-Michel Aulas, que cette nouvelle époque politique ouverte en 2017, où on nous avait dit on va dépasser les idéologies, on va être dans une espèce de grand pragmatisme, entre guillemets, on voit que ça ne marche pas du tout, qu'il faut à l'Assemblée nationale des gens qui aient une culture, notamment une culture classique, une culture politique, pour analyser ce qui se passe.
Étienne Darjac.
Oui, je crois que... On vit, on parlait aussi tout à l'heure des élites corrompues dont font partie Jacques Lang. Il y a dans l'air du temps sans doute une grande déresponsabilisation de la vie politique au sens large. Plus personne n'est responsable de rien. Sur un tout autre sujet, plus personne ne démissionne aujourd'hui. On se souvient que Gérald Darmanin n'avait pas jugé bon de démissionner après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions à Paris. On se souvient que Laurence Descartes, alors bon, c'est plus vrai depuis ce matin, je crois, ou hier soir, mais Laurence Descartes, sa démission avait été refusée par Emmanuel Macron après le braquage du Louvre.
Oui, enfin, il a fini par démissionner avant-hier.
Il était temps, avec 6 mois de retard. Il y a une espèce de on sait, en fait, il y a une époque dans ce pays où, moi je me souviens, j'en ai parlé récemment, pardon, je fais très rapide.
En
2008, à Carcassonne, il y a eu un accident de tir dans un régiment, je ne sais plus lequel, pendant une démonstration. Un accident de tir, il y avait une démonstration des armes. Le sergent qui s'en occupait a mélangé les cartouches à blanc avec des vraies cartouches et a tiré dans la foule. Il y a eu, Dieu merci, aucun mort, mais il y a eu une dizaine de blessés graves, dont des enfants très jeunes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Dans la semaine, l'intégralité de la chaîne de commandement jusqu'au chef d'état-major de l'armée de terre avait démissionné.
Ouais.
Alors, c'est bien là, que le chef d'état-major de l'armée de terre, il ne trouvait pas grand-chose, le pauvre.
Oui, bah, au moins, mais, l'armée a ce sens des responsabilités.
Mais,
ouais,
alors, je ne sais pas si c'est spécifique à l'armée ou si c'était spécifique à cette époque, mais de ce point de vue-là, je crois que c'est... peut-être une des caractéristiques sous-estimées du macronisme. Et, pardon, je fais le lien et je termine. Il y a, sur la légèreté avec laquelle on traite cette histoire d'euthanasie, il y a de ça. Il y a, plus personne n'est responsable de rien. Et il n'y a pas un seul de ces députés qui a voté un peu sans réfléchir, qui aura du mal à s'endormir ce soir en pensant à ce qu'il a fait.
Exactement.
Pas un seul.
Ouais. Merci beaucoup, Étienne Darjac. On est en direct avec le sénateur du Rhône, Étienne Blanc. Bonsoir, monsieur le sénateur. Est-ce que vous nous recevez?
Oui, bonsoir, je vous reçois très très bien.
Très bien. Étienne Blanc, sénateur Les Républicains du Rhône. Avant de parler de la manifestation en hommage à Quentin, vous avez certainement vu le vote des députés à l'Assemblée nationale votant donc en deuxième lecture le projet de loi sur la fin de vie. Ce projet de loi avait été rejeté au Sénat, mais il revient donc chez vous. Comment vous interprétez le vote de l'Assemblée nationale sur ce sujet ?
Je trouve que l'Assemblée nationale, d'abord, n'a pas pris en compte une position du Sénat qui n'était pas une position conservatrice, qui n'était pas une position fermée. Et le Sénat disant la priorité doit être donnée aux soins palliatif et faire en sorte que sur l'ensemble du territoire national, on puisse en bénéficier, qu'il y ait une véritable égalité des Français devant ces soins de fin de vie, devant ces soins palliatifs. Donc je trouve que ça n'a pas été suffisamment pris en compte. Et puis en second lieu, le débat au Sénat était de très très bonne tenue, et notamment sur le fond. Et ce que nous avons dit, c'est que nous sommes les héritiers d'une civilisation très ancienne, et que dans cette civilisation, on protège le faible, on protège le malade jusqu'à la fin de sa vie. Tout notre droit n'a qu'un seul objectif, c'est protéger le faible. Le droit du travail, il protège le salarié qui est souvent en position de faiblesse par rapport à son employeur. Le droit pénal, c'est la protection de la victime. Dans le droit commercial, on protège, par un droit très strict, un co-contractant qui est en position de faiblesse par rapport à une entreprise qui est un prestataire, un fournisseur de services ou autre. Voilà. Et là, on inverse le système. C'est-à-dire que le faible, on ne le protège plus, on le fait disparaître. Et dans les débats sénatoriaux, cette rupture anthropologique était pour nous au cœur de notre préoccupation. Puis la dernière observation, enfin elle m'est très personnelle, c'est que je pense là que la vie, ça n'est pas une chose. Voilà. Eh bien, avec ce texte, on a fait de la vie une chose. Avec une seringue et un produit, on se substitue à la vie. Et c'est pour l'humanité une véritable prétention et je crois un véritable danger pour le futur.
Dernière question là-dessus, monsieur le sénateur. Vous avez dit que vous aviez rappelé que les débats au Sénat étaient très bonne tenue. On sait qu'une des questions, justement, parmi ceux qui défendent ce projet de loi, c'est la garantie des lignes rouges, des barrières. On les a vues tomber les unes après les autres en débat à l'Assemblée nationale. On sait à quel point, lorsque le sujet s'aventure sur le champ bioéthique et sociétal, ces fameuses lignes rouges ont tendance à tomber. Est-ce que vous croyez en l'existence de lignes rouges sur un tel sujet, tout simplement ?
Non, je n'y crois pas pour deux raisons. D'abord parce que l'Assemblée nationale ne les a pas écrites de manière claire et limpide. Vous savez, un bon droit, c'est un droit qui fixe des principes. Voilà. Et puis ensuite, ces principes, on les met en œuvre. Et je trouve que sur ces lignes rouges, les principes n'ont pas été fixés convenablement. Et puis surtout, deuxièmement, je rappelle que rien n'interdira à une famille, à un établissement hospitalier, à un établissement de soins, à une personne qui s'est vue attribuer la qualité d'accompagnant en fin de vie d'une personne pour mettre en œuvre ses dernières volontés. Mais qu'est-ce qu'empêchera la justice de se saisir ? Et que va dire le juge ? Avec une justice dont on sait aujourd'hui qu'avec une jurisprudence, elle construit un droit qui n'est pas forcément celui qui est souhaité par le législateur. Donc penser que les lignes rouges elles sont absolument infranchissables, d'abord, dans ce texte, elles sont si faibles qu'on a de la peine à trouver une ligne directrice, trouver des principes. Puis deuxièmement, vous aurez des juges qui, le moment venu, feront leur propre jurisprudence et s'affranchiront, à mon avis, de ces lignes rouges.
Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Alors, vous étiez aussi présent, je me remets la date, le samedi 21 février, oula, à Lyon, pour la marche en hommage à la mémoire du jeune Quentin Derenck, ce militant de 23 ans, tué par des militants proches de la mouvance Antifa. En tout cas, parmi les interpellés, il y a des collaborateurs parlementaires du député et cofondateur de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud, et des gens liés à ce groupe antifasciste de la Jeune Garde, pardon. Question très simple, monsieur le sénateur, vous étiez le seul élu de la République à vous être rendu à cette manifestation, pourquoi ?
Moi j'habite à Lyon, et sur les quais de Saône. Cet assassinat, il s'est produit à quelques centaines de mètres de chez moi. Alors il eût fallu que je reste dans mon fauteuil, devant ma télévision, à regarder une série de Netflix, et alors même qu'un des drames les plus épouvantables s'était produit en bas de chez moi. Et je suis parlementaire, j'ai un mandat du peuple. Il aurait fallu que j'aie une certaine indifférence ou que je regarde ça avec un œil un peu éloigné. Je l'ai dit à un certain nombre de vos confrères, moi je n'ai pas eu le courage de la couardise. Voilà. Je n'ai pas eu ce courage de rester dans mon fauteuil et de passer cet événement comme si de rien n'était. Alors, voilà, parce qu'il en faut du courage. Et pour ne pas ouvrir les yeux, il en faut du courage pour ne pas se lever et descendre dans la rue pour manifester avec
vous
un
pensez,
certain
Vous pensez de... que Jean-Luc Mélenchon, quelque part, il fait preuve de courage dans cette séquence en ne voulant pas regarder la réalité, peut-être de la responsabilité morale, au moins, de son mouvement et à minima de son député?
Mais enfin, mais est-ce que les Français raisonnent d'abord? Est-ce qu'ils connaissent encore un peu l'histoire? Est-ce qu'ils connaissent un peu l'histoire des révolutions? Vous connaissez des révolutions non violentes? Et quand vous écoutez le discours de Mélenchon, enfin, je veux dire, on ne peut pas sanctuariser Robespierre et dire que qu'on est non violent. Enfin, il y a une cohérence dans une idéologie. Moi, j'ai rappelé le jour un député d'extrême gauche, je dis, mais enfin, les carmélites de Compiègne et qui sont montées à l'échafaud, elles étaient coupables de quoi? Et ça, c'est la révolution. Elles étaient catholiques, point, voilà. Et ce jeune, il était coupable de quoi? Pas de casier judiciaire, pas de fiche de renseignement sur lui, aucun emportement, on ne lui connaît aucun excès. Aurait-il écrit un article au vitriol? Se serait-il injurié, insulté avec qui que ce soit? Jamais. Voilà. Il est chrétien, il est catholique, il est sans doute catholique conservateur, et alors? Voilà. Il aime la France? On dit, bah oui, oh, il est nationaliste, on le dépeint comme le nationaliste. Mais il aime la France. Est-ce que on lui
a été dépeint, il a été dépeint par certains politiques et certains de mes confrères que je ne nommerai pas pour ne pas leur faire cet honneur, carrément de néo-nazis aussi.
Mais bien sûr. Mais de toute façon, écoutez-moi, là, tel que vous m'interrogez, mais vous parlez d'un fasciste. Parce que moi, régulièrement, dès que j'argumente sur un sujet, mais je suis fasciste, je suis classé comme fasciste. Là, on jette l'anathème. Mais ça, c'est le principe révolutionnaire. Les Girondins, ils ont été classés comme anti-républicains. Pourtant, c'est eux qui ont fait naître la démocratie. Et ils sont montés les uns après les autres à l'échafaud, avec Barnave et tous ceux qui lui ont succédé. Voilà. Moi, mais les Français, mais ils ferment les yeux. Ils n'ont pas compris qu'il est en train de se reproduire en France, dans notre démocratie qui offre des libertés, qu'il est en train de se produire la naissance d'un mouvement qui est d'une violence et d'une intolérance invraisemblable. Et la tolérance, eh ben, elle va jusqu'à l'assassinat. Voilà pourquoi je suis allé à cette manifestation. Alors, moi, je suis d'abord allé à la cérémonie religieuse parce que l'évêque du Rhône, de Lyon, et puis la famille a fait savoir que. Donc moi, je suis allé dans la foule de cette cérémonie qui a été d'une dignité exceptionnel. Puis en sortant, je suis allé à la manifestation. Je n'ai pas porté d'écharpe parce que la famille avait souhaité que les politiques n'y soient pas. Je n'ai pas porté d'insigne. Bah, je suis allé m'immerger dans la foule et je pensais qu'il était de mon devoir, mais en tant qu'homme, quoi, d'être là. Et ce que j'ai regretté, c'est qu'il n'y ait que 3 000 Lyonnais. Il aurait dû y en avoir 50 000 parce que quand vous êtes face à l'intolérable, un peuple, il doit se réveiller, il doit être debout. Il ne doit pas être couché, il ne doit pas se taire, il ne doit pas accepter. Voilà. Et moi, j'ai été déçu de ça. Alors, il y a eu des gestes, des saluts nazis, paraît-il. Moi, je ne les ai pas vus, mais je les ai vus après à la télévision. Évidemment, je les réprouve, mais parce qu'il y avait quelques olibrius qui se sont livrés à ces agissements, fallait-il que je ne sois pas là? Je ne le crois pas. Je vous le redis, un moment... Un pays doit se lever, et c'est le moment de se lever contre cette intolérance et ce système autoritaire qu'on est en train d'essayer de mettre en place en France. J'espère, vous voyez, de tout mal, il faut faire naître un bien. J'espère que de ce drame, il naîtra une prise de conscience chez un grand nombre de Français qui ne peuvent accepter l'inacceptable.
Valentin Gore, vous avez une question pour le sénateur Étienne Blanc.
Oui, monsieur le sénateur, je reviens sur les mots forts que vous avez eus en regrettant, c'est vrai qu'il y a eu une manifestation tout à fait intéressante et essentielle, évidemment, mais elle n'a pas été massivement suivie, vous l'avez rappelé. Est-ce que là, ça n'est pas tout de même un succès pour l'extrême-gauche lyonnaise qui est arrivée à instaurer quand même dans la ville un climat presque de terreur? Beaucoup de gens ont eu peur de se rendre à cette manifestation par crainte de violence. Aussi évidemment la responsabilité des médias qui ont expliqué que cette manifestation risquait d'être livrée aussi à l'extrême droite. Sur ce climat lyonnais, maintenant à quelques semaines des élections municipales d'ailleurs.
Et c'est une évidence pour moi, l'extrême gauche. Enfin, il faut relire Trotsky, il faut connaître les méthodes trotskistes. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les universités, dans nos lycées, mais enfin...
Alors, on enseigne Trotsky, je crois, dans les universités en France, quand même.
Malheureusement, un peu trop, mais avec quelle grille de lecture. mais enfin, ce système subversif, mais Mélenchon l'a parfaitement compris, Madame Panot l'a parfaitement compris. Et de quoi s'agit-il? Ben d'abord, il s'agit de dire, si vous allez à la manifestation, vous êtes un néo-nazi. Mmh. Voilà. Donc déjà, vous vous dites, oulala, tiens, je vais y aller, vous mettez de quoi j'ai besoin, moi. Puis ensuite, vous dites, attendez, hein, si vous allez à cette manifestation, vous prenez un risque, vous allez vous faire casser la figure, et il va y avoir des événements graves, etc. Et moi, je comprends qu'un certain nombre de personnes aient eu peur. On leur a fait peur. Mmh. Il y avait pas mal de familles qui étaient là. Moi, je croisais une mère de famille, elle tenait sa petite fille dans les bras. Hein, bon, voilà. Et, mais il y a des gens qui ont résisté, mais pour la majorité des Lyonnais, c'était oulala, attention. Mmh. C'est une ligue fasciste qui va défendre. Mais voilà, la gauche, elle vous traite de fasciste. Elle vous dit que la manifestation sera composée de factieux qui vont mettre le feu à la ville, donc vous avez peur. Et ce que je regrette, c'est que sur les médias, sur un certain nombre de médias, on n'est pas présenté une version contraire.
Vous trouvez qu'il y a eu un problème dans le traitement médiatique de cette affaire, Étienne Blanc? C'est-à-dire qu'il y a eu un récit, un contre-récit, en quelque sorte, qui se sont affrontés?
Écoutez, attendez, on va être clair, hein. Vous savez, moi, j'ai un principe très simple. Quand on me demande de juger les télévisions, je réponds toujours la même chose. Je dis, quand je veux avoir une analyse de gauche, je vais sur les services publics et notamment sur France Info. Quand je veux avoir la version du président de la République et des macronistes, je vais sur BFM. Je dis souvent, pour moi, BFM, c'est bien favoriser Macron. Voilà. Mmh. Donc, je vais sur BFM. Et puis, quand je veux avoir... une analyse de droite, bon, j'écoute des radios, vous en connaissez quelques-unes, je crois.
Non, je pense à une en particulier, oui.
Voilà, à la télévision, je regarde CNews. Et finalement, je trouve que le système n'est pas si mal fait, parce que chacun s'y retrouve. Moi, je n'écoute pas toujours CNews et je n'écoute pas toujours Sans Info, mais j'aime bien me faire mon opinion, donc je les écoute toutes et c'est très très bien comme ça. Mais ce que j'ai constaté, c'est que, par exemple, sur BFM TV, parce qu'il s'est passé, c'est invraisemblable, vous aviez... une photo de la banderole où vous aviez la tête de Quentin.
Pour conclure, oui.
Il y a personne qui était devant. Et en dessous, vous aviez le défilé de toutes les informations. Il y a eu des signes fascistes, il y avait des mouvements néo-nazis, etc. Donc pour le français moyen, il y avait la tête de Quentin et en dessous du néo-nazisme. C'est vraiment de la manipulation d'informations. Et je trouve ça absolument déplorable. Donc quand vous me posez la question, est-ce que les médias ont une responsabilité? Oui, c'est évident qu'ils en ont une.
Merci en tout cas Étienne Blanc d'avoir été avec nous dans cette émission, dans ce Restons Courtois du jeudi animé par Valeurs Actuelles. Merci Étienne Darjac et Valentin Gore pour d'avoir été avec moi. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain. Demain, vous retrouverez le Restons Courtois de Marc Baudrier de Boulevard Voltaire. À très bientôt.
Ça suffit maintenant !